On a un ouvrage qui s'appelle, qui s'intitule Écrire les sciences sociales et qui a comme sous-titre Commencer, terminer son article, sa thèse ou son livre. Donc un titre qui laisse supposer qu'on va avoir un manuel, un guide de plus pour énumérer des procédures à suivre, pour formaliser un ensemble de règles ou de méthodes, de conventions à connaître et à respecter, et éventuellement qui délivrerait quelques bonnes recettes, etc. Mais en réalité, on pourrait dire que précisément, c'est en quelque sorte un anti-manuel, puisque d'une part, Baker s'efforce précisément dans cet ouvrage de montrer combien les méthodes formelles, combien le paramétrage, les codifications peuvent être improductives, mais non seulement improductives, en tout cas lorsqu'on les situe en amont du processus d'écriture, non seulement improductives, mais plus encore, elles ont quelque chose de paralysant, de complexant, voire de pétrifiant pour l'auteur. Et puisque ce que les méthodes entre guillemets entérinent, c'est notamment le mythe académique de la seule bonne façon de faire, et donc toutes ces névroses d'échec qui en découlent chez les étudiants. Donc c'est pas un manuel, donc, et pour une seconde raison, c'est que, comme je l'ai dit, il s'agit d'une démonstration, il me semble, plutôt dans cet ouvrage, puisque les conseils et les principes que Baker va livrer petit à petit... Je peux fermer, j'ai une sorte d'obsession des portes fermées quand j'ai... C'est mon rituel magique à moi, on en parlera des rituels magiques. Et donc il va proposer quand même un certain nombre de conseils et de principes tout au long de l'ouvrage, mais toujours en s'appuyant sur une analyse sociologique, vraiment de type sociologique sur l'écriture scientifique en tant que pratique sociale. Et en tant que, si c'est une pratique sociale, ça signifie que c'est une pratique qui est structurée par le collectif, même si c'est une pratique qui nous met face à un certain isolement. Précisément, ben cet isolement, c'est le produit d'un conditionnement scolaire, universitaire. Et donc, les difficultés des étudiants vont vraiment, dans cet ouvrage, être prises au sérieux, vont être exposés, illustrés par des exemples que Baker tire de son expérience d'enseignant et de chercheur, et des difficultés qu'il va analyser et, on peut même dire, démystifier, puisque il va justement, donc je l'évoquais tout de suite, tout à l'instant, évoquer au tout début de l'ouvrage tous ces rituels magiques que les étudiants emploient dans leur rapport à l'écriture, tous ces rituels de préparation pour commencer à écrire, comme ranger son bureau, comme si on pouvait par là mettre un peu d'ordre dans sa boîte crânienne, ou au contraire ankyloser son bureau avec des tas d'ouvrages et de références comme pour mieux avoir la sensation d'être mieux armé, travailler ou non avec de la musique, etc., avec un stylo bleu ou je ne sais quoi. Bref, tous ces rituels qui, en fin de compte, sont une manière d'avoir la sensation de maîtriser ce qu'on n'arrive pas à maîtriser véritablement de manière rationnelle, à savoir deux peurs. La première, celle de ne pas réussir à mettre de l'ordre dans ses idées. Et la seconde, héritée de notre vieille socialisation dans l'école secondaire, la peur de se tromper, la peur d'écrire des choses incorrectes. On verra tout à l'heure si on va se mettre à parler de nos différents protocoles d'écriture, ça pourrait être amusant. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais vraiment envie, en proposant cet ouvrage à la discussion, c'est de partager, enfin, c'est de... partager avec vous, vous sensibiliser aux apports qu'il peut livrer. Pour moi, il a une vertu presque thérapeutique Puisqu'en refermant l'ouvrage, on se dit non, je suis pas la seule à fuir en permanence le labeur de l'écriture, à me sentir démunie, à avoir le sentiment d'imposture, d'être prise de doute, de découragement devant les exigences académiques, etc. Et le message de Baker, c'est que ces névroses d'échec ne sont pas des tares psychologiques personnelles, c'est au contraire en quelque sorte notre lot commun en tant qu'apprenti-chercheur, et il découle de l'organisation de la vie académique elle-même. En particulier, ça commence par la socialisation scolaire puis universitaire qui va nous exposer à des apprentissages et nous figer dans certaines habitudes de moins en moins appropriées au fil de notre avancée dans le parcours. Ça passe par l'image publique du travail scientifique, des contraintes qu'on intériorise par rapport à cette image qu'on a. Ça passe par le marché concurrentiel pour accéder à la rareté que représentent les carrières de chercheurs. Enfin, tout un tas de facteurs qu'on peut analyser d'un point de vue sociologique. Donc, des problèmes communs face à l'écriture que Baker expose dans cet ouvrage, qui découle de l'environnement académique, et des solutions quand même, des remèdes, pas miracles, mais des remèdes proposés qui sont de deux natures. La réflexivité, c'est-à-dire avoir ce retour sur, réflexif sur ses habitudes d'écriture, sur ses habitudes de pensée, de concevoir l'écriture et qu'il faudrait remettre en cause. Donc ça me fait penser à ce travail de nature psychologique sur les distorsions cognitives, hein, quand on a tendance à avoir des raisonnements émotionnels plus que rationnels et qu'il faut les écrire pour prendre du recul. Et puis, ça passe par la réflexivité et puis ça passe par la pratique, par le réapprentissage des pratiques. Par la pratique. Il le dit à la fin de l'ouvrage, cet ouvrage ne vous servira à rien, c'est à vous maintenant d'agir. Et finalement, c'est un peu aussi, puisque l'acte d'écriture est un comportement social comme les autres, finalement, c'est le mérite de Baker de bien le mettre en évidence. Finalement, c'est un message qu'on retrouve assez souvent chez les écrivains. Chez aussi des psychothérapeutes, comme je disais, mais des conseillers en développement personnel, etc. C'est toujours par la pratique répétée qu'on peut rectifier un comportement qui n'est pas adapté. Donc, c'est vraiment sur ça, je trouve qu'il invite vers là qu'il invite à aller. Pour ce qui concerne l'écriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la peine de se coucher sur le divan pendant des heures, c'est pas la peine de scruter ses états d'âme non plus, je n'y arriverai pas, qui suis-je pour oser dire que je peux écrire des choses intéressantes. Le tout, c'est de se lancer, de plonger dedans, et c'est par la pratique qu'on va développer un nouveau rapport à l'écriture. Mais on reviendra plus précisément sur les principes qu'énonce Baker et sur la manière de pratiquer l'écriture. Ce que je vous propose, du coup, c'est donc de résumer quelques idées centrales de l'ouvrage devraient nous alimenter la discussion et de commencer par en dire un peu plus sur ces mauvaises habitudes qui apparemment caractérise notre rapport à l'écrit, à tous, et notre rapport à l'univers académique dans son ensemble. Et ensuite, je dirais juste quelques mots sur les principes que Baker énonce pour surmonter l'insurmontable tâche de l'écriture, qui en réalité sont des choses assez simples et qu'on a tous à l'état intuitif, mais il y a des obstacles qu'il faut surmonter pour les mettre en pratique. Et justement, on commence par voir quels sont ces obstacles que les étudiants rencontrent. Alors, premier obstacle au projet d'écriture lui-même, l'inertie. J'ai tel projet d'article, mais je repousse à plus tard. J'ai pas assez lu, j'ai pas assez réfléchi. Je suis en début de thèse, donc j'écrirai plus tard. J'ai pas encore assez de choses à dire. Il faut que j'attende de savoir ce que j'aurai à dire. Et donc, cette première très très mauvaise habitude, eh bien, Becker nous explique qu'elle prend sa source dans la socialisation scolaire et universitaire, dans l'organisation de la vie académique, je le disais tout à l'heure, déjà parce que le découpage en trimestres, le système de notation, tout ça nous a habitués à produire des travaux courts, des travaux écrits courts, le plus souvent qu'on rédige à l'envolée, à la veille de la date limite. On a été conditionné dans un cadre où on a été amené à cultiver du coup un rapport d'exécution immédiate et d'exécution ponctuelle de la tâche d'écriture. L'organisation du système scolaire aussi nous a habitués à ce que notre valeur personnelle soit jugée de manière irrévocable, de manière ou sans appel par les professeurs sur la base justement de ces versions écrites, courtes, définitives, produites dans l'immédiateté. Et donc, cet apprentissage qu'on a de l'écrit scolaire, du rapport qu'on a à l'écrit scolaire universitaire, je dis universitaire parce que ça continue par la suite, ne serait-ce que l'examen sur table, ça fonctionne sur ce principe. Et donc, cet apprentissage nous mène à percevoir la tâche d'écriture comme le fait d'aboutir à une production unique, définitive et révélatrice, c'est-à-dire que elle est susceptible de soit refléter notre ingéniosité, soit dévoiler notre médiocrité. Et puis, un apprentissage qui mène aussi, enfin, en même temps, au mythe du rédacteur compétent qui serait capable de rédiger un écrit brillant du premier coup. Et donc, voilà, des représentations assez distordues, assez idéaliste, irréaliste, voire mystificatrice du travail d'écriture scientifique qui, dans ces conditions, ne peut que effectivement complexer, accabler l'étudiant et aboutir au comportement de fuite, d'anxiété, etc. Du coup, le premier pas à effectuer pour déconstruire un peu cette vision de l'écriture et ces idéaux, déconstruire ce mythe du génie artistique qui produirait du premier coup de pinceau le chef-d'œuvre. D'une part, c'est de bien intégrer que ni le métier de chercheur, ni même le métier d'écrivain ne fonctionne de cette manière. Becker nous explique hein, que même à partir d'une version qu'on considère a priori comme définitive, c'est-à-dire déjà il y a eu beaucoup de maniements pour arriver à cette version d'article. Il faut, quand on est chercheur, écrire parfois jusqu'à 8 fois, 10 fois son article avant qu'il soit publié. Ce sont des réalités dont les étudiants n'ont pas toujours conscience. Deuxième paramètre à intégrer, c'est que les conditions de l'exercice scriptural ne sont plus les mêmes à partir du moment où on accède au statut de doctorant. C'est-à-dire que on entre dans un système d'exigences différent, un système qui nous lie déjà à la carrière de chercheur et qui n'est plus de la même nature que la carrière scolaire et universitaire. Donc ce qui a fonctionné jusqu'ici ne peut plus fonctionner. Par exemple, le fait que ben, désormais il faut produire des textes de longue envergure, de grande envergure sur le long terme. Donc ça devient incompatible avec ces automatismes qu'on avait appris à avoir. Et des automatismes qui sont, il explique, de toujours laisser digérer un peu les réflexions dans sa tête sur une période, et puis après, on écrit. On écrit parce que c'est un travail court, donc bon, on peut se permettre de laisser maturer dans son esprit la réflexion. Mais lorsque trop de données s'accumulent, ça ne fonctionne plus, évidemment. Et puis ce qui change, c'est que la réputation ne sont plus, et le contrôle de l'écrit n'est plus dans le cadre d'une relation duale entre élèves et professeurs. Désormais, les travaux sont susceptibles d'être exposés aux yeux de tous, de toute la communauté scientifique, en principe. Donc, ça conditionne des... Voilà, il y a d'autres enjeux, des enjeux de professionnalisation, des enjeux de comparaison, de prestige, etc. Donc, voilà, de nouvelles conditions, de nouvelles contraintes qui sont liées à l'exercice intellectuel, qui sont conditionnées par la compétition. Et souvent, donc cet apprentissage de ces nouvelles contraintes, on le fait en étant lancé dans le bain, un peu à nos dépens, mais souvent on apprend d'ailleurs par des échecs petits et grands que ce qui ne peut plus fonctionner et qu'il existe ces nouvelles contraintes à intérioriser. Alors, deux obstacles à nouveau qui ne nous permettent pas généralement de mettre à profit ces apprentissages. Premièrement, c'est le fait qu'on ne dissocie pas l'échec de cet apprentissage. Je m'explique. J'ai relevé pour vous ce matin une jolie phrase de La Rochefoucauld qui dit: notre mérite attire l'estime des honnêtes gens et notre étoile celle du public. C'est-à-dire que si l'écrivain confie le sort de sa gloire à sa bonne étoile, ça veut bien dire qu'il faut peut-être accepter de dissocier ce qui fait notre valeur personnelle et les conditions de réception de notre production, qu'elle soit littéraire, scientifique ou artistique. C'est-à-dire que l'œuvre... Je ne peux pas le dire, je suis enregistrée, mais c'est mon psy qui m'avait dit ça. Bon, je l'ai dit. Une œuvre, il m'avait dit, arrêtez, votre œuvre, ce n'est pas vous, ce n'est pas le reflet de vous. L'œuvre écrite, une fois qu'elle sort de l'atelier, eh bien, il y a une quantité infinie de paramètres qui nous échappent complètement, qui vont conditionner l'accueil que ces travaux vont avoir au sein de la communauté scientifique. Et il faut accepter cette idée que notre œuvre nous échappe en partie. Je me rappelle aussi un sociologue qui disait que Bourdieu se plaignait constamment de ne pas être compris, que ce soit de la part de ses détracteurs ou de la part de ses encenseurs. C'est-à-dire que ce qui fait qu'à un moment donné, cette œuvre va connaître du succès ou non, c'est en partie indépendant de notre volonté, une fois que c'est fait. Donc, quand je dis ça, je déborde un peu de l'ouvrage, mais c'est bien cette identification de l'auteur à son œuvre qui est en grande partie responsable de cette inertie, de cette peur de l'échec. Et comme du coup, comme le formule Jean-Claude Passeron en préface, on sait que le texte est voué à s'offrir au regard des autres, est voué à s'offrir à leur scalpel, qu'il est nu, immobile, incapable de se défendre tout seul, orphelin de son père, disait déjà Platon, d'où cette erreur de sortir, de décrire et ensuite de sortir l'écrit de l'atelier. Et en filigrane de tout l'ouvrage, on voit bien, même s'il ne le dit pas comme ça, on voit bien apparaître ce narcissisme de l'auteur. Qui peine à dévoiler ses écrits, finalement, pour préserver son idéal du moi, cette image qu'il a de ce qu'il devrait être, et pour se mettre à l'abri du jugement. Et on comprend aussi ce sentiment d'imposture qui va expliquer en reprenant les propos de certains étudiants. Si, oui, ce sentiment d'imposture, donc oui, voilà, si mes juges, donc qui sont à la fois mon groupe de pairs, toutes ces figures qui représentent autorité pour moi, etc., si on s'aperçoit que je n'écris pas aussi bien que les penseurs qui me servent de modèle, que je n'en connais pas autant qu'il me semble je devrais en connaître parce que je veux me présenter comme spécialiste de tel sujet, etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on se rend compte que je ne suis pas à la hauteur de cet idéal que moi-même je me suis fixé. Et on cultive en fait les uns et les autres ce mythe en ne partageant pas entre nous ces angoisses et ces sentiments. Tout ça aboutit aussi, du coup, à un grand art de l'esquive parmi les étudiants, parmi les doctorants en particulier, face au jugement de la communauté scientifique. des stratégies de fuite qui vont se retourner contre les auteurs, puisqu'il s'agit en premier lieu donc de ne pas écrire, toujours repousser, mais aussi qui va conditionner l'écriture elle-même. C'est-à-dire que Baker observe tout un tas de... un véritable langage de l'évitement chez les doctorants. Évitement, imaginez le risque que représente d'écrire des phrases qui seraient trop claires, qui seraient trop affirmatives, trop engagées. Ça, là, on s'expose encore une fois au jugement des pairs. Et du coup, par peur des implications de ce qu'on écrit, les doctorants ont tendance, c'est vrai, à privilégier des formulations creuses, évasives, à recourir à des atténuations, à des tas de précautions dans leur texte. C'est le fameux « tout se passe comme si hein, », et qu'on, du coup, on voit bien que ça ne se cantonne pas qu'aux doctorants. Éviter de s'engager, selon Baker, ça se manifeste aussi à travers cette prédilection qu'on a pour les plans. On choisit de mentionner des thèmes plutôt que de se lancer directement dans l'écriture. Comme ça, on ne s'engage pas, on se dit « bon, plus tard, je parlerai de telle et telle question. » Et quand je ne sais pas encore ce que j'ai de bien dans la tête, il faut que je fasse un plan. Et on fait des plans du plan, et des plans à l'intérieur des plans, avec des sous-parties, etc. Et bon, le fait de faire des plans, on peut ne jamais en finir. Ah, je vois que ça vous parle. Autre stratégie pour maîtriser le jugement des pairs, tout aussi irrationnelle pour l'auteur, mais on pourra en discuter. C'est le fait de dissimuler le contenu du texte derrière tout un tas de manipulations stylistiques. Donc, de vouloir imiter les préciosités académiques pour donner une impression d'objectivité, de scientificité. C'est de privilégier des tournures formelles, impersonnelles, pour dire quelque chose, mais sans en assumer la responsabilité. Se réfugier derrière l'autorité voilà, une vérité générale. C'est éviter des termes courants et les remplacer par des expressions jargonneuses. C'est faire des phrases complexes plutôt que simples. Ou encore accumuler des références que seules des personnes averties, des initiés pourraient comprendre. Et tout cela, finalement, selon Baker, a une fonction bien plus rituelle que scientifique. C'est-à-dire rituel dans le sens où écrire, et ça je trouve que c'est vraiment la force de ce sociologue de mettre ça en évidence, écrire c'est aussi jouer un rôle. C'est on écrit toujours en tant que quelqu'un. Et donc à travers des tas de symboles qui correspondent à ces procédés stylistiques, on va construire une frontière derrière laquelle on se situe. Donc en l'occurrence, on va construire la frontière avec les profanes. Donc on va, comme dit Baker, on ne voudrait pas avoir l'air de dire ce que n'importe quel idiot pourrait dire. Donc ça correspond, ça nous mène à manier le style d'une certaine façon. D'être persuadé que le texte ne va faire autorité que si l'image que véhicule l'auteur à travers sa manière d'écriture, à travers sa manière d'écrire, pardon, à travers le choix des mots, des tournures, etc., correspond à un style scientifique, à un style académique, etc. Donc, on se met en scène en tant que sociologue quand on écrit. Sauf que, évidemment, les écueils auxquels ça aboutit, c'est des pires excès de style chez certains doctorants. Ça me fait penser, moi, à ce que Bourdieu disait sur les nouveaux riches qui vont faire un étalage de tous les signes extérieurs de richesse et en faire trop, et finalement, ne réussit pas à manier vraiment les critères de la distinction. Et puis, chez les étudiants, ça peut aboutir à la confusion la plus totale dans l'écriture. On le voit quand on est enseignant, surtout chez les étudiants en licence, cette volonté d'imiter le style académique, ça aboutit à des copier-coller d'expressions jargonneuses, et ça n'a plus aucun sens à la fin, et mais on le voit dans les travaux d'étudiants, mais on le voit dans les ouvrages. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je suis déjà tombée sur des ouvrages où on ne comprend plus rien, et quand on examine de près, on se rend compte que c'est parce que l'auteur a voulu être tellement précautionneux et ne pas s'engager qu'il a repris des tas d'idées paraphrasées à droite et à gauche et les a empilées, quoi. Donc, on est encore dans l'ordre quand même des rituels pour se protéger du jugement de l'autre et ne pas s'engager. Le cercle vicieux de tout ça, je vais peut-être m'arrêter bientôt, qu'énonce Baker avec beaucoup d'humour dans les conséquences, ça a des conséquences assez dramatiques dans le champ académique, c'est que, par exemple, en lisant des articles, les étudiants tombent sur ce genre d'écrit très pompeux, très ennuyeux, très prétentieux en poulet. Du coup, ça les amène à penser que les comités de rédaction sont demandeurs de ce genre de style guindé et à tenter de les imiter. Et ce qui se passe, c'est que les revues, bon, ça c'est l'avis de Baker, on peut en discuter, mais ce qui se passerait, c'est que les revues, à défaut de trouver mieux dans les articles disponibles, eh bien, ils publient et ça contribue à que les étudiants se retrouvent face à ces exemples, persuadés que ce sont ces excès de style qui font la distinction. Bon, moi, on peut en discuter, moi j'ai un regard différent parce qu'on est quand même en France et je ne sais pas dans quelle mesure les comités de rédaction ne sont pas réellement demandeurs de ce genre de choses. Mais bon. Alors pour finir, je vais pas. Bon, Baker donne des conseils très pratiques, hein, en réalité, à certains moments, très concrets pour rompre avec ses mauvaises habitudes et pour corriger son texte, mais je vous laisserai voir par vous-même dans l'ouvrage. La seule chose, ce que je voudrais souligner, c'est ce principe essentiel qui fonde toute son approche de la rédaction. C'est seulement par l'écriture qu'on peut raisonner, et non l'inverse. Donc, c'est-à-dire que au moment où je m'installe devant mon ordinateur, devant ma feuille blanche, et que je suis face à une pile de données, parce qu'on est toujours face à une pile de données, que ce soit même tout au début de sa recherche, si on a voulu faire cette recherche, c'est que on a un certain nombre d'expériences personnelles, voire d'expériences de lecture, d'expériences de terrain qui façonnent notre projet. Et donc, quel que soit le moment où on se situe dans le processus de recherche, eh bien, on a déjà un certain nombre de données qu'on a empilées dans notre tête, on a déjà produit un raisonnement, on a déjà des hypothèses, on a déjà des partis pris, on a déjà tranché, sans le savoir souvent, entre différentes approches théoriques, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel insiste Baker, parce que ces partis pris, c'est ce qui a façonné les questions qu'on se pose, l'angle par lequel on voit les choses, c'est ce qui façonne, c'est ce qui détermine notre choix du terrain, nos choix de lecture, etc. Donc, il s'agit, la première fonction du travail d'écriture, c'est de mettre au clair tout ça, c'est de faire cette opération de clarification, de mettre en évidence ces décisions qu'on a déjà prises, parce que ça nous a engagés déjà dans un certain nombre de choix qu'on a déjà faits. Et donc la première tâche, enfin la première fonction de l'écriture, c'est de tirer au clair ce qu'on a fait, la manière dont on a réfléchi aux choses et ce qu'il reste à faire. Et pour ça, nous dit Baker, il faut donner à sa réflexion une forme matérielle. Il faut pouvoir voir, visualiser ce qu'on a envie de dire, c'est-à-dire que on est strictement à l'opposé de la démarche qui dit qu'il faut savoir ce qu'on va dire avant d'écrire. Là, il faut écrire pour savoir ce qu'on va dire. Ça correspond en fin de compte à des conseils de beaucoup d'écrivains qui préconisent le free writing, le fait d'écrire tout ce qui passe par la tête, de se débarrasser complètement de toutes les sources extérieures. Donc, on se débarrasse de nos notes, on se débarrasse des ouvrages, des références, des aides, etc. Et on se contente d'écrire tout ce qu'on a dans la tête sans se préoccuper des formulations. Parce que il faut vraiment raisonner, dit Baker, en termes de version. Et à chaque étape, sa version écrite. Et donc, cette première version, c'est vraiment ce travail d'externalisation de la pensée. Et c'est seulement dans un second temps qu'on va pouvoir, à partir de ce matériau, commencer à agencer, commencer à mettre en cohérence, éventuellement adjoindre des éléments extérieurs. Et il faut pouvoir, pour faire ce travail de mise en ordre, il faut pouvoir visualiser ces idées parce que sinon on a cette impression de vertige devant la page blanche, par quoi commencer, comment expliquer, évidemment. Et puis le troisième temps vient le travail stylistique, mais pas comme au sens où on l'a dit tout à l'heure, mais plutôt le travail stylistique, le seul objectif qu'il doit avoir, selon Baker, c'est de rendre le sens directement accessible au lecteur. Une opération de clarification. Et durant ce temps aussi, c'est là qu'on peut commencer à mettre aux normes, à traquer les erreurs grammaticales, etc. Mais cette préoccupation de la bonne tournure ne doit venir qu'à une certaine étape du procès d'écriture, pour pas que ça nous paralyse. Et puis enfin, il donne un rôle essentiel au collectif. Le fait de toujours, pour nous sortir de ces blocages dont on a parlé, de toujours exposer ses écrits à d'autres, que ce soit des figures qui font autorité ou à des collègues, et en leur précisant à chaque fois à quel stade d'écriture on en est et quel type de conseils on voudrait, parce que les conseils devant être adaptés à l'étape. Donc si on est au début, voilà, faut bien expliquer, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, qu'est-ce que tu en penses, et on ne demande pas un jugement sur les formulations, etc.